Et donc ces mines illégales sont donc alors des fois dans le jardin, mais et beaucoup dans les bois. Et en effet, on a accompagné la police municipale qui fait des patrouilles justement contre ces mines illégales. Et on a découvert, en fait, c'est des trous, des fossés qui sont creusés sur plusieurs mètres de largeur, plusieurs mètres de longueur, et ça peut descendre jusqu'à 7-8 mètres. Mais on trouve du charbon. Il suffit de creuser un mètre à certains endroits pour trouver du charbon.
La bonne pioche. Les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes latitude.
Arthur, Louis, vous étiez au sud-ouest de la Pologne pour votre reportage latitude dans la ville de Wałbrzych. Alors c'est pas la ville à laquelle on pense tout de suite quand on pense charbon en Pologne, et pourtant Louis, il y a un fort lien avec le charbon là-bas.
Oui, tout d'abord sur un point de vue historique, on a extrait du charbon depuis le XIVe siècle. Il y a une vraie industrie qui s'est développée dans l'après-guerre, et notamment avec de nombreux mineurs polonais qui sont installés au moment où ce territoire est devenu du coup intégré à la République de Pologne. Et il y a différents sites d'extraction qui ont été créés, notamment trois sites.
Il y a une des mines là-bas qui a fermé du coup en 96, mais qui s'appelait la mine Torres, en hommage à Maurice Torres, le secrétaire général du Parti communiste français. Et en fait, c'est dans les années 50, des anciens mineurs polonais qui avaient immigré dans les mines du Nord-Pas-de-Calais en France ont réémigré en Pologne pour faire tourner ces mines. Et c'était des mineurs communistes, et en hommage à leur passage en France. Ont voulu renommer cette mine la mine Torres.
Et donc tu disais que cette mine a fermé en 96. Est-ce que toutes les mines en Pologne ont fermé en 96? Est-ce que la ville où vous étiez, depuis 96, il n'y a plus du tout de mine? Comment ça s'est fait un peu la sortie du charbon?
Alors dans cette ville, à Wałbrzych, si on le prononce à la polonaise.
Oui, mais c'est Wałbrzych à la française.
Et Wałbrzych, en polonais, on s'est fait reprendre par nos interlocuteurs sur place. Maintenant, on fait l'effort. Et donc en fait, à Wałbrzych, les trois mines, donc il y avait Victoria Torres et la mine de Wałbrzych, ont fermé définitivement en 1996.
Elles employaient jusqu'à 14 000 personnes pic de l'activité. Donc c'était vraiment une part importante de l'économie locale. Donc c'était un grand traumatisme au moment de la fermeture des mines dans les années 90. C'était une fermeture qui était notamment motivée pour des coûts économiques. Le charbon était devenu trop cher à extraire et ça a créé un grand traumatisme et la transformation était très difficile.
Ouais, on a rencontré des mineurs polonais qui sont aujourd'hui guides dans cette mine Torres qui est devenue un musée et qui nous racontaient ces années dans la ville. Le chômage est monté à 30%, 40% dans les années 2000, un peu après la fermeture de la mine. C'est un peu cliché, mais il y a eu de l'alcoolisme évidemment dans ces régions-là qui ont été dévastées, puisque ce que nous disait un de nos interlocuteurs mineurs, en fait, les gens ne savaient rien faire par eux-mêmes. La mine, c'était tout, c'était l'organisation de la société, et cette phrase de... On n'avait jamais pris de décision pour nous-mêmes, il y a toujours quelqu'un qui les prenait pour nous avant.
Et même au-delà de ça, c'est qu'on était dans une économie planifiée et du jour au lendemain, ils ont découvert le libre marché, le marché de l'emploi. C'était une existence qui était planifiée depuis leur naissance jusqu'à l'école primaire et après dans leur vie professionnelle. Donc le fait d'être licencié, de connaître le chômage de masse, c'était vraiment la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et il y a beaucoup de gens qui sont réorientés vers une économie informelle, notamment de la contrebande d'alcool. Et ensuite... Du coup, les mines illégales, elles ont fleuri dans ce contexte-là, et c'était l'un des aspects de cette transformation dans les années 90.
Oui, parce que Arthur, aujourd'hui, la ville n'extrait plus officiellement de charbon, donc comme tu as dit, il y a une sortie du charbon, mais le charbon est quand même encore présent.
Oui, c'est ce qu'on a. C'est pour ça qu'on est allé dans cette ville, en fait, qui est assez connue pour ses bidachevés. Qui sont, la traduction littérale, c'est puits de pauvreté. En fait, ce sont des mines illégales qu'on trouve vraiment... Il suffit de rouler quelques minutes après le centre-ville.
Un peu partout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la ville est vraiment située dans une vallée, dans les Sudètes, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de charbon, mais sur des veines qui sont plus ou moins riches. Donc finalement, il ne faut pas aller très profondément pour aller chercher du charbon. Donc les gens découvrent du charbon en creusant dans leur jardin. Le charbon vient naturellement à eux.
Est-ce que j'ai demandé, quand on dit mine illégale, c'est pas d'anciennes mines qui sont devenues...
Non, les gens retournent
dedans.
C'est les
gens qui creusent et qui cherchent du charbon.
En fait, ce que les mineurs nous ont aussi dit, c'est que les anciennes mines, elles ont été... Quand on creuse une mine, il y a de l'eau qui arrive et on doit souvent l'évacuer. Et le fait, quand ils ont stoppé l'activité, naturellement, l'eau a occupé les différentes galeries.
La nature a horreur du vide.
Ouais, exactement.
Et donc ces mines illégales sont des fois dans le jardin, mais et beaucoup dans les bois qui sont un peu, alors pas des grosses forêts, mais les petits bois autour de la ville, entre les différents quartiers. Et en effet, on a accompagné la police municipale qui fait des patrouilles justement contre ces mines illégales. Et on a découvert, en fait, c'est des des trous, des fossés qui sont creusés sur plusieurs mètres de largeur, plusieurs mètres de longueur, et même, et ça peut descendre jusqu'à 7-8 mètres, mais on trouve du charbon. Il suffit de creuser un mètre sur certains endroits pour trouver du charbon.
Et est-ce que les gens cherchent du charbon, comme tu dis, presque dans leur jardin, pour eux, pour se chauffer, ou est-ce que c'est aussi pour le revendre ? Qu'est-ce qui est mis en place
Ce qui était intéressant, c'est que, du coup, dans les années 90, c'était vraiment une activité complémentaire pour les mineurs, notamment pour chauffer, pour mettre du charbon dans le poêle. Ensuite, c'était devenu pour les voisins, c'était une logique de quartier assez communautaire.
Et au début, c'était beaucoup des anciens mineurs, ceux qui venaient de perdre leur emploi, qui ne savaient pas faire grand-chose d'autre, et qui donc, pour continuer un peu à vivre, ont trouvé cette solution. Donc au début, c'était plutôt des mineurs.
Et ensuite, l'activité s'est professionnalisée. Il y a eu vraiment des équipages de 2, 3, 4 personnes qui creusaient sur un petit trou de 50 cm pour vérifier qu'il y avait bien du charbon, en tout cas sur le terrain qu'ils allaient utiliser. Et ensuite, c'était vraiment devenu assez... industriel.
Vraiment un réseau ensuite de distribution.
Uniquement dans la ville où vous étiez, ou est-ce que ça s'est aussi un peu propagé
Souvent le charbon allait jusqu'à la commune voisine de Wrocław, qui est vraiment la grande ville qui est à côté, mais c'était une distribution qui est assez locale ou régionale.
Donc c'est que les gens avaient besoin de charbon, et ils se sont dit, pour en avoir, on va creuser nous-mêmes. Mais je me demande quand même, est-ce que creuser dans son jardin et trouver du charbon, c'est légal ? Ou est-ce que c'est le domaine privé, le domaine public qui...
Alors, dans son jardin, par exemple, on a eu la situation où, avec la police, on est tombé sur ils nous ont montré un puits de pauvreté qui était sur un terrain privé. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'était illégal parce que c'était d'autres gens qui étaient venus sur le terrain privé, mais la police ne pouvait rien faire, ils ne pouvaient pas le reboucher, le condamner, comme ils le font, en fait, quand ils découvrent d'autres puits, ensuite, c'est cher, mais ils les rebouchent. Il les rend flous, quoi, de terre. Donc si quelqu'un le fait soi-même dans son jardin, de ce qu'on a compris, il n'y a pas tellement de problème. Ouais. Mais c'est que là, c'est beaucoup sur les territoires, le territoire communal, sur les bois de la ville. Et là, il y a un vrai problème.
Vraiment, les zones d'extraction maintenant se situent en tout cas dans les forêts, aux alentours, dans les collines, vraiment loin, en tout cas pas loin du centre-ville. Donc c'est vraiment un peu partout, quoi. On trouve des trous quand on s'éloigne de la ville, assez fréquemment, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé.
Moi. On était sur un chemin... dans un bois, mais tous les 10-20 mètres, on voyait, alors des fois, des trous d'un mètre de diamètre, et puis des fois, on est tombé sur, vous pouvez retrouver les images dans un reportage qui sera en vidéo sur le site de Latitude, des trous, des fossés, mais sur 50 mètres de longueur, 20 mètres de large.
Cette multiplication là, des trous et des puits, est-ce que ça ne crée pas un nouveau danger aussi, ou quand on va dans une forêt, on peut tomber dans un trou à n'importe quel moment?
Est-ce que c'est problématique? Ils sont assez visibles, je pense que ce n'est pas un danger qui est immédiat pour les populations, d'accord, mais plus pour les mineurs, qui, eux, prennent des risques inconsidérés pour extraire du charbon. Il y a eu plusieurs accidents mortels dans les années 90 et 2000. On n'a pas de statistiques précises, mais en tout cas, c'est un danger qui existe.
Oui, parce que du coup, comme on disait, au début, c'était des mineurs, un peu d'anciens mineurs professionnels, donc qui savaient creuser, qui connaissaient le sol. Et petit à petit, c'est devenu le fait d'un peu tout le monde qui cherchait à se faire de l'argent facilement. Et donc, il y a eu, en effet, plusieurs morts sur une extraction mal faite, quoi.
Et tu parlais de patrouille de la police. Donc, vous avez rencontré des policiers. Est-ce qu'ils vous ont parlé d'une volonté de mettre fin à tout ce commerce? Est-ce qu'il y a des amendes? Est-ce qu'il y a des arrestations? Comment ça se passe quand ils tombent sur des mineurs illégaux?
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait discuté du coup avec un ancien mineur qui s'appelle Roman, qui expliquait qu'il y avait une certaine tolérance de la part des autorités dans les années 90, notamment du fait du climat économique et social qui était assez délétère. Maintenant, il y a vraiment une vraie répression, en tout cas, qui s'est installée. Il y a une envie, il y a une volonté politique de lutter contre ce phénomène.
La police patrouille quotidiennement dans les zones qu'ils savent porteuses de charbon. Ils arrêtent quand ils tombent sur des mineurs illégaux. Ouais. Ils saisissent le charbon. Et ce qu'ils nous disaient bien, c'est que c'est hyper important de saisir le charbon. C'est ça la preuve du délit. Et selon la somme, enfin la masse de charbon saisie, la peine est proportionnelle. Et ça va au tribunal quasiment systématiquement de ce que nous explique la police.
Non, les amendes peuvent aller jusqu'à 5 000 zlotys. Donc ça peut représenter 1 000 euros par personne, ce qui est une somme assez importante en tout cas pour ces mineurs. Après, il y a des peines de prison en cas de récidive, mais les flagrants délits ne sont pas systématiques. Les gens prennent souvent la fuite quand il y a une intervention de la police.
Et est-ce qu'il y a des projets de reboucher ces trous une fois qu'ils tombent dessus, ou comment ça se passe une fois que les gens sont arrêtés, par exemple?
Oui, c'est le travail de la police. Ils nous ont montré une mine qui était maintenant rebouchée, donc maintenant c'est juste un terrain vague, parce que du coup les arbres avaient été coupés par les mineurs pour creuser, et donc là il y a eu il y a de la terre, on sent encore un peu fraîche, sans herbe, et là il me disait, là il y avait un trou, mais c'est coûteux.
Ça coûte cher.
De renflouer une
mine. Et puis ensuite, il y a l'accessibilité pour les services municipaux. Je veux dire, il y a vraiment des trous qui sont assez difficiles d'accès. Il faut emprunter une boue, un sentier, genre boueux.
Il y a du dénivelé.
Et ça coûte beaucoup d'argent, en tout cas pour la ville.
Arthur, tu disais tout à l'heure que vous avez réalisé un reportage vidéo. Donc effectivement, pour voir à quoi ressemblent ces mines, donc un reportage où on voit vos rencontres avec la police qui vous montre les mines, c'est ça?
Oui, exactement. D'accord. On a passé plusieurs heures un matin dans ces différentes zones, dans les bois, et on a pu filmer ces mines. On a même des plans vus du ciel, je vous cache pas, pour voir. Et ça permet de prendre la mesure de l'ampleur, en fait, la taille que ça peut avoir, que peuvent avoir ces mines.
Donc pour voir justement cette ampleur, le reportage sera sur le site internet latitude-2023.fr. Merci d'être passé dans la bonne pioche. Votre article aussi est à retrouver dans le magazine Latitude et sur le site internet. On rappelle qu'on est présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. Et notre site internet, je le répète, latitude-2023.fr. Louis, Arthur, merci d'être passé.
Merci Valentin.
Merci à toi.
La bonne pioche, les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes latitudes.